Bonjour à tous. C'est un peu difficile de prendre la parole après une vidéo comme ça, après tout ce qu'on a déjà entendu. Mais c'est tout à fait dans ce thème-là que la prédication qui était proposée par Porte Ouverte va continuer. Nous aimons tous être bénis. Nous disons « soyez bénis » en quittant des frères et sœurs. Et en général, ce qu'on veut dire par là, c'est ben, « j'espère que tout va bien pour toi, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire ». Et pourtant, on constate bien que tout ne va pas bien. On a des exemples là très durs hein, qu'on a entendus de gens qui vivent au loin. Mais nous tous, on sait bien qu'on traverse tous des périodes de notre vie, des moments, des difficultés qui nous donnent l'impression que Dieu est loin et qu'il ne s'occupe pas de nous. Et on se pose beaucoup de questions, comme Omar qu'on vient d'entendre qui dit « Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci ou cela? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce décès ?» En ce moment, on entend beaucoup parler de jeunes personnes qui meurent du cancer chez nous, par exemple. Et on se dit « Mais pourquoi Seigneur ?» Voilà. Et c'est d'ailleurs le premier argument qu'ont les non-chrétiens pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il dit « S'il y avait un Dieu, pourquoi toutes ces choses arriveraient-elles » Et ces interrogations peuvent aussi nous ébranler, nous les chrétiens, dans notre foi. Alors pourtant, ces témoignages qu'on vient d'entendre, et aussi l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible, peuvent nous aider peut-être à mieux comprendre de la manière dont Dieu prend soin de nous malgré les difficultés. Son amour et sa fidélité se cache peut-être même au cœur de nos épreuves. Alors l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, elle se trouve dans le premier livre de Samuel, mais avant de vous lire le chapitre, je vais déjà vous expliquer un peu le contexte. Donc Alexandre, tu peux mettre le plan, donc il y a le plan de la prédication, comme ça vous voyez où on en est. Donc ça se passe au début du livre de Samuel, en fait on est dans la période des juges. Alors, quand le peuple d'Israël est entré en Canaan, au début ils ont écouté Dieu tant que Josué était en vie, mais au bout de quelques années, ils ont abandonné les lois de Dieu. Ils ont commencé à vivre chacun comme ils voulaient, comme ils pensaient, et ils n'avaient pas terminé le travail que Dieu leur avait demandé de faire, c'était d'exterminer tous les ennemis qui vivaient autour d'eux. Ils en ont laissé certains, et ces ennemis ont été ensuite un problème pour eux. Ils revenaient tout le temps les attaquer. Et donc, ils vivaient toujours dans la crainte de l'oppression. Donc, c'était comme un cycle hein, qui se répétait tout le temps. Donc, les ennemis attaquaient, le peuple tout à coup se souvenait qu'il y avait un Dieu et criait à Dieu de le délivrer. Dieu intervenait, envoyait un libérateur. Tant que ce libérateur était en vie ou menait le peuple dans les bons chemins, on écoutait Dieu. Et quand la paix s'était installée depuis longtemps, on oubliait ce que Dieu avait fait avant et on retournait aux mauvaises habitudes. Et donc tout le livre des juges, c'est ça. C'est un cycle terrible, hein, désobéissance, épreuve, retour à Dieu, délivrance, qui se répète tout au long du livre. Donc ensuite, il y avait le problème que les Hébreux, ils avaient une mauvaise idée de leur alliance avec Dieu. Ils savaient qu'ils avaient une alliance avec Dieu et ils pensaient, bah, c'est bon, nous, on est le peuple élu, Dieu s'occupe de nous. Ils pensaient que c'était une garantie, que grâce à ça, ils allaient être sauvés de tout problème. Quoi. Dieu était un peu comme un porte-bonheur. Alors, Dieu était présent au milieu d'eux à travers l'Arche de l'Alliance, donc un coffre qui contenait les 10 commandements et qui aurait dû éveiller dans leur cœur un saint respect et qui en fait était traité comme un talisman, comme un porte-bonheur. Dans les chapitres précédents, l'histoire qu'on va lire, ils ont emmené l'arche au combat, croyant que ça allait leur donner la victoire. Et en fait, l'arche a été prise par les Philistins, les ennemis. Finalement, les Philistins renvoient l'arche parce qu'elle leur pose trop de problèmes. Mais parmi le peuple hébreu aussi, il y a des victimes parce qu'ils ont mal considéré, ils ont mal traité cette arche. Alors, ils la mettent chez un homme qui s'appelle Aminadab, à Kiriat Nearim, pour qu'il garde l'arche chez lui et que ça ne les embête pas trop. Voilà, donc Dieu est rangé hein, chez Aminadab. Les Philistins ont été échaudés par l'expérience, puisqu'ils ont vécu aussi des difficultés avec cette arche. Ils se tiennent provisoirement tranquilles, et même si leur présence reste menaçante, tout est rentré à peu près dans l'ordre. Chacun retourne à sa vie quotidienne. En fait, Dieu est mis à l'écart. Nous aussi, des fois, est-ce qu'on ne met pas Dieu à l'écart dans nos vies ? Est-ce qu'on veut bien qu'il soit là ? On a fait alliance avec lui, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop exigeant. Hein, il ne faut pas trop que ça bouleverse trop nos petites habitudes ou notre manière de voir les choses. Hein. On a peut-être peur aussi de ce qu'il pourrait nous demander. Donc, on va lire maintenant le texte. Donc, c'est dans 1 Samuel au chapitre 7. En fait, c'est tout le chapitre, hein, tout le chapitre 7 de Samuel. Voilà. Les habitants de Kiriath Yearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Yearim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Ah non, là, on arrête là. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, on est au C. L'oppression ramène le peuple à Dieu. On nous dit que les Israélites gémissent vers Dieu. Dans d'autres versions, il dit qu'ils aspirent à revenir à lui. C'est la situation difficile qu'ils vivent, toujours à la merci des Philistins, qui les a poussés à se tourner vers Dieu. Ben nous aussi, c'est souvent dans les moments difficiles que nous sommes poussés à revenir à Dieu. Quand nous avons épuisé toutes nos capacités et nos ressources, nous nous souvenons de lui. En Alsace, les églises étaient pleines après la guerre. J'ai lu hier, en Syrie actuellement, les paroles d'un évêque catholique qui disait « Aujourd'hui, en Syrie, notre seul refuge, c'est Dieu. Les églises sont pleines tous les dimanches. » Les gens sont très courageux. J'ai aussi l'exemple de Johnny. Vous savez, cette jeune femme américaine qui est devenue tétraplégique après un accident de plongée à l'âge de 17 ans. Et suite à cet accident, elle a vécu tout un cheminement intérieur qui l'a rapprochée de Dieu. au point qu'elle pouvait dire « Je préfère être en fauteuil roulant avec Jésus que sur mes deux jambes sans le connaître. » Donc de nombreux chrétiens persécutés racontent des histoires similaires. La difficulté les a poussés à se réfugier auprès de Dieu et la nouvelle intimité qu'ils ont connue avec Dieu continue même après l'épreuve. De sorte que la persécution leur a finalement été profitable dans un certain sens. Dieu change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Mais pour ça, il faut revenir à Dieu. Et Dieu, il est toujours prêt à nous accueillir. Il ne rejette pas, il ne fait pas de reproches, comme on le voit à travers l'attitude de Samuel, qui accueille le peuple de très bonne grâce. Peut-être Samuel y priait depuis très longtemps pour que les gens se tournent vers Dieu, mais quand ils viennent, il ne leur dit pas « Ah ben c'est pas trop tôt, hein ?» Non, il les prend comme ils sont. Il ne se montre pas critique, il les encourage dans leur démarche. Il leur montre ce que Dieu attend d'eux et il participe lui-même au retour à Dieu, puisqu'il fait ce sacrifice et il crie à l'Éternel pour Israël. De même, Jésus dit en Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Alors n'ayons pas peur de ne tourner vers lui encore et toujours. Quel que soit ton passé, les reproches que tu peux te faire, la honte que tu peux éprouver, Dieu t'attend et t'accueille. Il n'est jamais trop tard, tant que Dieu nous prête vie. Alors la condition à cet appel, c'est la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance ? C'est reconnaître qu'on est pécheur et qu'on ne mérite rien. Que la grâce de Dieu, c'est une grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose qui nous doit, c'est vraiment une grâce, un cadeau qu'il nous fait. Il s'agit de reconnaître nos fautes et d'être prêt à changer. Dans notre histoire, Samuel appelle le peuple à la repentance en leur disant de se débarrasser des idoles, des dieux étrangers qui sont parmi eux. Pour nous, ça sera peut-être se débarrasser des choses qui nous séparent de Dieu ou qui sont plus importantes que Dieu, des habitudes, même des personnes parfois qui peuvent être toxiques pour nous. Voilà. Les Hébreux se rassemblent auprès de Samuel à Mitzpah, dans une zone montagneuse un peu à l'écart, pour un temps de jeûne et de confession des péchés. Alors, il est question de verser de l'eau sur le sol. Alors, ce rituel n'est pas connu par ailleurs dans la Bible. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais ça laisse penser qu'il s'agissait d'un signe de purification. Alors, pour nous, revenir à Dieu, ce n'est pas juste venir à l'Église. Bien sûr, ça peut en faire partie, mais c'est d'abord à l'intérieur de nous que ça se passe. Demander pardon du fond du cœur pour nos manquements, nos péchés, nos désobéissances et décider de changer de comportement pour obéir à Dieu. Et pour savoir ce qui plaît à Dieu, lisons la Bible, sa parole, étudions-la, laissons-nous enseigner, écoutons sa voix dans nos cœurs. Dieu voit nos cœurs, il ne se laisse pas impressionner par les apparences. Alors nous aussi, comme dit Samuel, dirigeons nos cœurs vers l'Éternel. Alors on passe au C, Dieu délivre et restaure. Pendant ce temps-là, les Philistins s'aperçoivent qu'il y a un rassemblement là, dans les montagnes. Et ils se rangent en bataille contre eux, puisqu'ils sont tous rassemblés et c'est le moment d'aller les cueillir. Mais cette fois, Dieu accorde une délivrance surnaturelle, puisque c'est à travers un tonnerre, donc je ne sais pas comment, qui sème la panique dans les rangs ennemis. Et Israël repousse l'ennemi aux frontières et même récupère les villes que l'ennemi lui avait prises. Alors, nous aussi, souvent, on a des attaques. Quand on veut se rapprocher de Dieu, des fois, c'est là qu'on est attaqué, que les difficultés peuvent arriver, parce que le diable, il n'aime pas ça, il veut nous détourner de Dieu. Donc cette victoire que Dieu accorde au peuple atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. Et alors, pour commémorer cette victoire, Samuel place la pierre d'Ébénézer, qui veut dire pierre du secours, sur un endroit où ils avaient autrefois eu une grande défaite. Donc ils ont enfin un temps de délivrance et de repos. La pierre posée est une proclamation du plein rétablissement d'Israël dans son territoire, mais aussi et surtout dans son alliance avec Dieu. Il va maintenant bénéficier d'une paix durable. Alors, Avant ce bâtiment ici, l'église se réunissait dans une salle derrière la synagogue et ça s'appelait Ebenezer. Hein, donc, le secours de Dieu, quoi. Et bon, je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi ce nom pour cette salle, mais voilà. Alors, pour nous aussi, hein, Dieu, il veut aussi nous délivrer, il souhaite nous restaurer, nous bénir dans tous nos domaines, et nous accorder sa paix et sa joie surnaturelle, même au milieu des souffrances. Ça veut dire que les problèmes ne vont pas forcément partir, mais c'est le cœur qui peut trouver la paix. Je pense à Olivier, là, qui m'a dit il y a quelques temps. Donc, Olivier, c'est un ami qui est en prison et qui vient de subir une sanction injuste, on va dire. Il avait un travail à la bibliothèque de la prison et maintenant, il n'a plus le droit de sortir de sa cellule. Et il m'a dit, mais Dieu, il travaille en moi et vraiment, il approfondit sa relation avec moi. Je ne me reconnais plus. J'ai l'impression de devenir un autre homme. Voilà, donc oui, le problème, la malédiction peut devenir bénédiction. Alors, on passe à la suite. Une pierre est posée. Ebenezer, pierre du secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi il pose une pierre, Samuel? C'est un signe de reconnaissance à Dieu, ainsi qu'un rappel pour les générations futures. C'est une référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. Nous aussi, on a des pierres comme ça dans les monuments aux morts ou dans des endroits où il s'est passé un événement, il y a des pierres qui rappellent l'événement dans les villes, les villages. Voilà, et c'est donc cette parole que Samuel dit, là, il dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». En fait, il regarde en arrière, il dit « Mais tout ce qu'on a vécu avant, on a vu la main de Dieu ». Et ça, on a aussi entendu dans la vidéo. Malgré toutes les chutes, toutes les infidélités du peuple, Dieu, lui, a toujours été fidèle. Il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Alors nous aussi, de temps en temps, on peut se retourner, regarder derrière et dire « Waouh !» Regarder toute notre vie et dire « Dieu était là ». Même quand c'était difficile, même quand il y a eu tel problème, ben j'ai vu le secours de Dieu. Et quand on fait ça, quand on regarde en arrière, ben ça nous met dans une juste attitude vis-à-vis de Dieu qui, comme un père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus et parfois aussi corrigés. Mais ça nous met vraiment dans... On sort de la revendication, de dire « mais pourquoi ?» On regarde plutôt ce que Dieu a fait de bon pour nous. L'Ancien Testament dit souvent « souviens-toi pour raconter à la génération suivante ». Nous aussi, on peut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, le raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. On peut aussi, dans notre maison, mettre aussi des choses, enfin, des cartes ou des objets qui nous rappellent ce que Dieu a fait. Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais je pensais à cet arbre-là avec tous les petits versets qui ont été mis le jour de la fête de reconnaissance. Voilà, mettre chez nous des trucs qui nous disent « oui, c'est vrai, Dieu était là ce jour-là, je veux m'en rappeler et je veux pouvoir le raconter ». Et donc, c'est ça qui va amener que notre foi va gagner en maturité. Quand on regarde la fidélité de Dieu, on peut dire comme Samuel, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et quand on fait ça, on fortifie sa foi, on la fait gagner en maturité. C'est un peu comme un muscle qui se renforce à travers l'exercice, à travers la difficulté. On devient de plus en plus fort pour affronter les difficultés de demain, ayant expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé, au cœur même de l'épreuve. Je vais vous lire encore un témoignage d'une jeune femme népalaise dont l'histoire illustre un peu ce cheminement. Donc c'est Kamala Népali. Elle est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle qui l'empêche de pratiquer sa foi. Et c'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et à la foi. Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de la part de son frère, qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil. Ainsi, Kamala nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve par le haut. En conclusion, j'ai envie de dire que la souffrance, ce n'est pas un sujet léger. C'est facile de dire « revenez à Dieu et puis ça ira mieux ». Ce n'est pas si simple et on le sait très bien. Il y a des souffrances qui durent très longtemps. Des gens qui sont dans une grande angoisse, sous des épées de Damoclès, sous des maladies, sous des menaces, qui font que la patience, la confiance peuvent s'user aussi avec le temps. Mais on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Je n'ai pas d'autre recette à vous proposer. C'est vraiment la seule chose que Dieu nous montre. Et tous les témoignages qu'on a vus nous montrent que Dieu n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Donc souvenons-nous de ce que Dieu a déjà fait pour pouvoir regarder en confiance l'avenir, quel qu'il sera. On peut rien dire, mais voilà. Réjouissons-nous des délivrances que Dieu nous a apportées, de son pardon qui est toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. On va finir avec un petit verset dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 3. C'est Dieu qui parle et qui dit « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez donc ». Et vous vivrez. Alors finalement, la bénédiction, est-ce que ça ne serait pas plutôt de vivre près de Dieu plutôt que sans problème ?